Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Julia est hyper excitée sur son fauteuil.
Excusez-moi.
C'est incroyable.
Le pâté en croûte, c'est
mais
la
vous
vie.
Bavez déjà, c'est mais la c'est, incroyable.
C'est incroyable.
On va donc s'attaquer. Mais ils sont tous heureux. Je les vois la banane c'est sur ça. La figure.
Tout le monde regarde Margot.
On va donc s'attaquer à une charcuterie pâtissière. À présent, avec vous, Marion Sauveur, on va croquer dans un incontournable de la gastronomie française, le pâté en croûte.
Une véritable gourmandise, une farce enrobée de pâte et qui se mange froid. Elle est redevenue tendance ces dernières années après avoir été longtemps snobée. Elle a été récupérée par les industriel, alors c'était la pâte molle, la farce sans goût, c'était
bon,
ringard
bon.
De manger du pâté croûte. Mais depuis une dizaine d'années, il fait son grand retour avec des terrines goûtues, des tranches graphiques, une pâte dorée et croustillante. C'est un véritable savoir-faire, ce pâté croûte qui est mis en valeur chez nos charcutiers, chez nos chefs dans les restaurants gastronomiques et notamment dans un championnat du monde de pâté croûte. La finale du 12e concours a eu lieu lundi. C'est un Japonais qui a eu le titre,
ah
Koe
bon
Fukuda, avec son pâté croûte au canard de chaland et foie gras. Mais rassurez-vous, le vice-champion est français.
Ah,
bravo donc à Damien Raymond de Daniel Gobert, traiteur.
Bravo.
Vous avez donc ce pâté croûte.
Bravo et merci.
Magnifique en studio, le vice-champion. Donc volaille de Bresse, canette des dômes, cochon et veau bio, foie gras de canard, champion des champignons des Saubois, pistache d'Iran, gelé au naturel.
Oh
là là. Il s'appelle pâte et croûte de la Bresse au senteur des sous-bois.
Oh là là, oui.
Mmh.
On sent les champignons. Les sous-bois. Ah ouais, les sous-bois sont là.
Daniel Gobet, qui a monté cette entreprise de traiteur, était lui champion du monde de pâte et croûte en 2018. Ils sont basés à Divonne-les-Bains dans l'Ain. Est-ce que vous dites d'ailleurs pâte et croûte ou pâté en croûte?
Moi, je dis pâté en croûte, mais je crois que c'est pas bon.
C'est parce que vous êtes tous des Parisiens, c'est
non,
ça
non, Perpignan, mais on mange
on
pas
dit
trop
pâté
ça
croûte
là-bas.
On dit pâté croûte surtout à Lyon. En
d'accord,
fait.
Pardon, donc on ne commencera plus.
Je suis lyonnaise, donc forcément, je me bats pour pâté croûte.
Mais d'ailleurs, ça date de quand, le pâté croûte?
Alors, c'est vieux, ça date du Moyen-Âge. On retrouve les premiers mélanges de viande cuite dans une croûte à ce moment-là. Mais la croûte ne se mangeait pas. On s'est mis à la cuisiner et à la préparer au fur et à mesure du temps parce qu'en fait, cette croûte, elle servait surtout à cuire la viande et à la conserver. Et cette croûte est finalement devenue mangeable grâce à nos pâtissiers.
Ce serait bien dommage de ne pas la manger parce qu'elle est délicieuse. En tout cas, celle du vice-champion vraiment qu'on salue et qu'on félicite parce que
merci,
tout le monde se régale autour
Damien
de la table.
Raymond,
Est-ce que vous avez de bonnes adresses à nous conseiller pour déguster des pâtés croûtes? Je le dis bien maintenant.
C'est bien, c'est bien. Des adresses lyonnaises, forcément.
Bah oui.
L'une des références en la matière, c'est la maison Raynon. Il propose pour les fêtes l'une des stars des pâtés croûtes, l'oreiller de la Belle Aurore. C'est un véritable travail d'orfèvre. Toujours à Lyon, il y a Daniel et Denise avec le chef Joseph Viola qui propose un pâté croûte au foie gras de canard et riz de veau. L'épicerie La Mère Brasier avec le pâté croûte signature du chef Mathieu Vianney avec la volaille de Bresse et le foie gras. Et puis à Paris, l'adresse de référence en la matière, c'est la maison Véro. Vous avez quelques-uns de leurs pâtés croûtes.
Je l'ai déjà avalé, il est très bon aussi. Il y avait des petites pistaches à l'intérieur, non?
Alors,
je crois.
C'est le houdan.
Ah, je me suis trompée, pardon. Ah oui, houdan, houdan.
Houdan,
c'est ça.
Volaille, cochon, pistache.
C'est
vous avez
bon.
Le canard au carré qui est parfait pour les fêtes. Ouais. Filet et cuisses confites de canard, foie gras de canard et farce de cochon. Ou encore le pâté croûte, canard, figue, foie gras. Vous avez du choix. Tout au long de l'année, il y a justement du choix à la maison Véro. À Paris, on a d'autres adresses. Le meilleur ouvrier de France, Arnaud Nicolas, l'astre sans apostrophe.
Ah oui.
En Bourgogne, vous pouvez
elle
vous
connaît, j'ai l'impression, Julia. Il est très bon.
Mais oui, délicieux aussi. La maison Bernard Loiseau, si vous passez à Saulieu, bien sûr. À Chartres, le pâté de Chartres qu'il faut goûter au grand monarque. Et puis en Touraine, par exemple, la maison d'à côté de Christophe Hay. Il y a du choix. Partout en France, on mange du pâté croûte.
Est-ce qu'il est possible de faire son propre pâté croûte à la maison?
Alors, Julia, je ne sais pas si...
C'est pas pour
si
vous,
c'est,
mais
non. Non, me poser la question.
Pour les
vraiment.
Gens qui savent cuisiner, je veux dire.
Non, en fait, l'important, c'est de faire attention à la recette. Si vous vous lancez, je vous conseille de suivre cet ouvrage « Terrine, rillettes, saucisses et pâté croûte » de Gilles et Nicolas Véro. Alors, grâce à ce livre, le pâté croûte va vous sembler complètement abordable et pas compliqué.
Je vais
c'est
regarder
comme
tout de suite.
La pâtisserie. Donc, il faut suivre pas à pas la recette. Le pâté croûte, ça demande de la technique, donc pour la pâte. Ensuite, il faut bien mélanger la farce, refermer le pâté avant de l'enfourner. Ne pas oublier les petites cheminées qu'on voit sur ce pâté, ces trous pour que la vapeur s'échappe. Un temps de repos et ensuite on remplit de gelée. Toutes ces étapes parce que la farce réduit à la cuisson et pour qu'un pâté croûte se tienne, il faut combler l'espace vide. Ça demande donc beaucoup de temps, beaucoup de patience, ce pâté croûte.
Franchement, je vais essayer. Il y a des recettes qui n'ont pas l'air si compliquées que
ça. Ce n'est pas si compliqué. Il faut vraiment se tenir à la recette.
Je ne suis pas sûre qu'il sera aussi bon. Il sera aussi bon que tout ce qu'on a dégusté aujourd'hui, mais
alors,
je vais
Mélanie,
me lancer.
Pour que vous réussissiez votre pâté croûte, j'ai demandé ces astuces au charcutier, donc Nicolas Véraud.
La première astuce, c'est de suivre la recette à la lettre, au gramme près. Numéro 2, pour la pâte, moi ce que je vais vous recommander, c'est de travailler la pâte fenêtre ouverte. Alors oui, vous aurez froid, mais vous vous embêterez beaucoup moins. Vous aurez une pâte qui restera ferme plus longtemps et ça évitera qu'elle devienne trop tendre, presque molle et donc cassable. Ensuite, concernant la farce, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est le mélange. Parce que si jamais on ne mélange pas assez, on va avoir une tranche qui ne va pas se tenir à la coupe. Donc on va avoir quelque chose qui va être cassant. Ça serait dommage de passer plusieurs heures à fabriquer un beau produit comme ça et d'avoir une tranche qui ne se tient pas à la fin. Il n'y a plus qu'à.
Et oui, il n'y a plus qu'à. Avec ce livre, Terrine Rillette, saucisse et pâte et croûte aux éditions du Chêne, vous pouvez vous lancer pour les fêtes de Noël. Vous avez un petit peu de temps pour vous entraîner avant. C'est d'ailleurs un très beau cadeau de Noël.
Je vous remercie de me l'offrir, Marion.
Avec plaisir.
Auto-offert le cadeau.
Comment ça pour payer les cadeaux, ouais.
C'est ça. Et si vous, alors, si vous êtes sur Instagram, venez voir sur nos réseaux sociaux. Il y a le beau gros pâté en croûte.
Daniel Gobet, traiteur,
le vice-champion du monde.
Et je peux vous dire quelque chose, je crois que c'est mon préféré.
Des quatre goûté. Qu'on avait dans l'assiette,
c'était
vrai.
Dingue.
Bravo à Damien Raymond, du coup.
Exactement. Merci beaucoup Marion Sauveur pour cette délicieuse chronique, cette savoureuse dégustation également. Franchement, on a un métier génial, Mélanie, j'adore. On bosse et on se régale en même temps, quelle chance. Et c'est loin d'être terminé. Dans un instant, Benjamin Lévesque va nous donner des conseils beauté. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais les suivre.
Je ne sais pas si c'est un conseil. Hein.
Parce qu'il dit que la nouvelle mode, c'est de se faire volontairement des cernes sous les yeux. En tout cas, c'est intriguant. Et puis Sophie Braffman sera également avec nous. Elle a mené l'enquête dans le secteur des culottes menstruelles. Et vous savez quoi? Elles sont pratiques, mais on en trouve aussi de très jolies désormais. Même très sexy, je crois. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à midi et demi avec notre bande de chroniqueurs toujours autour de nous et derrière leur micro, il ne reste plus une miette de la dégustation.
Surtout dans nos assiettes, hein, Julien.
C'est fou de pâté en croûte de Marion Sauveur il y a quelques minutes et ça nous a fatigués, hein, il faut le dire. Toutes ces bonnes choses à manger, ça tombe bien puisque Benjamin Lévesque, vous nous présentez chaque semaine les tendances beauté du moment et aujourd'hui vous êtes venu nous dire que la mode, c'est d'avoir des valises sous les yeux. Non mais sérieux?
Eh oui, c'est vrai, pendant des années on a abusé du maquillage pour camoufler nos cernes. Mais désormais, eh bien, ne les cachez plus, hein, vos cernes sous les yeux sont tendance, les filles. Et quand je regarde, vous êtes quand même pas mal à être tendance autour de la table.
Il est gentil.
Je me lève à 3h30.
Hein. On peut dire que c'est la troisième grande tendance beauté de ces dernières années. Hein. La première, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était très en vogue de se faire de fausses taches de rousseur. Hein. Tout le monde voulait ressembler à Gwyneth Paltrow.
Ça, on a déjà.
C'est naturel. Ensuite, on avait dû subir le sunburn, hein, le faux coup de soleil que l'on obtient avec du maquillage. Et la dernière, eh bien, c'est se créer de faux cernes. Alors, on a été dans la rue pour savoir ce que vous pensez de ce look.
Je trouve ça bien, si on a des cernes, de les assumer et de ne pas les cacher, mais d'en faire, j'avoue que je ne comprends pas tellement l'idée.
Le concept, fallait quand même l'inventer. C'est comme moi, si je faisais exprès de me rajouter des cheveux blancs, je trouve que c'est un peu bizarre.
Et ben, je trouve ça, très honnêtement, très bête et très con. À moins de faire passer un message au prof qui donne trop de travail et qu'on travaille la nuit entière pour avoir de bonnes notes, je ne comprends pas l'intérêt.
Bon, bref, c'est bête, mais c'est con.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est d'où, Benjamin, cette mode des fausses cernes? Comment est né le phénomène?
Eh bien, la faute à une jeune influenceuse qui avait fait un tuto sur le réseau social TikTok en début de pandémie où elle se maquillait pour accentuer ses cernes. Et depuis, un patatras, c'est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux. Hein, des centaines de milliers de photos de fausses cernes publiées sur Instagram, des millions de vues sur TikTok. Et aujourd'hui, c'est même devenu la norme dans les backstage des Fashion Week où l'on utilise, où on habille les cernes avec des strass et des paillettes,
mais
par exemple.
Mais pourquoi ces jeunes femmes, elles font ça?
Eh bien,
mais pourquoi?
Quand on regarde en fait les réseaux sociaux, eh bien, les cernes en vogue, on les voit surtout chez celles qui n'en ont pas, la génération Z, hein, celles qui sont nées entre 97 et 2010. Donc, Et en fait, à la base, c'est pas vraiment artistique, c'est plutôt lié à la santé mentale des jeunes, vous savez, avec les confinements, qui étaient déprimés et fatigués. Eh oui. Fatigués. Voilà, Rien de mieux que les cernes pour montrer son manque de sommeil. Et puis, comme la mode est un grand cycle, et bien selon Magali Bertin, qui est la responsable beauté pour le magazine Grazia, et bien cette tendance des faux cernes nous rappelle le look des années 90.
Le crop top, le sourcil un peu plus fin, le rouge à lèvres plus foncé et le retour des années grunge, l'esthétique Kurt Cobain, Courtney Love, qui n'était pas franchement connu pour être frais de visage. Et on a des stars comme Billie Eilish, par exemple, qui vont s'afficher sur les réseaux sociaux au naturel, donc des fois avec le teint un peu fatigué, une grise mine. Donc le fait d'avoir des cernes, c'est aussi le signe qu'on ne va pas bien. Et c'est aussi le signe de dire, bah, c'est ok d'aller pas bien, c'est normal. On n'est pas obligé de masquer le fait qu'on a des problèmes.
Et Benjamin, j'ai l'impression que vous êtes hyper à la mode et que les hommes aussi s'y mettent. Hein,
d'accord, Sacha.
Retour de bâton.
Bien sûr, et j'ai envie de dire, en particulier chez les hommes. Hein. Écoutez, Tom Sapin, qui est maquilleur professionnel pour MAC Cosmétiques et qui adore faire ressortir les cernes des garçons qu'il maquille.
Moi, quand je maquille un homme, je ne retire jamais toutes les cernes parce que je trouve que particulièrement sur un garçon, ça apporte un côté sexy, un peu ténébreux, les cernes, alors qu'un côté trop lissé, ça emmène vers un côté un petit peu parfois trop juvénile qui correspond pas forcément à l'état d'esprit d'un garçon que l'on maquille. Il y a un côté un peu retour de soirée et de se dire que les cernes, c'est pas forcément laid.
Bon, super, on est convaincus.
On fait comment alors si on est décidé à se faire de faux cernes?
Alors, le plus simple, c'est de ne pas dormir de la nuit et le lendemain, vous aurez un beau cerne. Mais sinon, si vous préférez par le maquillage, je vous conseille d'utiliser un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres parce qu'habituellement, c'est là où on a le plus de choix de nuances. Alors, pour se rapprocher de la couleur d'un cerne, il faut s'orienter vers des tons violines. Un violine, c'est entre le violet et le mauve. Moi, par exemple, j'utilise, donc chez MAC, c'est la teinte Coffee and Kings. C'est un prune un peu taupe. Et en fait, donc vous tapotez avec le petit doigt sur.
Ah, vous allez vous les faire.
Ouais, allez-y, faites-le. Faire en direct. Ah, donc vous tapotez donc le rouge à lèvres avec le petit doigt.
Sur Europe 1.fr, vous pouvez beaucoup. Voir Benjamin très et fatigué, ensuite, mais très à la mode.
Et ensuite, on va venir donc le déposer voilà, à l'endroit où en fait, normalement, on a des cernes. Donc on commence par le coin interne de l'œil, proche du nez. Et on va venir descendre comme ça. Dans ce qu'on appelle donc sous le compteur de l'œil.
On est en train d'apprendre à faire des cernes.
Mais,
quand même,
mais c'est
hein.
terrible.
Dans ce qu'on appelle vous êtes épuisé, mon pauvre ami.
La vallée des larmes, voilà. Et on vient comme ça faire fondre comme une ombre. Hop, et là, vous avez des cernes de compétition.
Faites-moi.
Et alors,
il fait ça bien, il parle en même temps, il se maquille, c'est incroyable.
Et pour avoir des yeux de panda, vous pouvez même en rajouter en tapotant.
Non, ça fait cocard.
Sur la paupière supérieur de l'œil. Voilà. Et attention à ne pas trop en mettre.
On fait les deux yeux, par contre, sinon on a l'air d'avoir un cocard.
On fait les deux yeux, bien sûr.
Effectivement,
voilà, et attention à ne pas trop en mettre aussi, sinon vous avez un effet cocard. Et ça, c'est pas encore
ça,
la
c'est
mode.
Moche. Est-ce que vous pourriez revenir la semaine prochaine pour nous montrer comment faire des seins qui tombent?
Je vais confier ça à mon collègue Aurèle Marco.
Allez, merci beaucoup Benjamin, en tout cas au moins pour le décryptage de cette tendance qui peut paraître effarante tant on a passé de temps à les cacher, nous les cernes. Mais bon, les modes, ça va, ça vient et ça repart. En tout cas, on vous en parle ici sur Europe 1. Alors on va passer à une autre tendance, pas glam-glam hein, non plus. Celle-ci, une tendance qui est passée dans votre viseur, Sophie Braffman.
Oui.
Les culottes menstruelles. On vous écoute.
Eh bien, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on peut enfin parler de règles à la radio notamment. Hein. C'est pas toujours évident. Mmh. Et les culottes menstruelles, c'est devenu quelque chose de quasiment commun. Il y a quelques années encore, et puis je ne sais pas si vous vous rappelez quand on parlait de tout ça, bref, les pubs, enfin, c'était monstrueux quoi, avec ce petit liquide bleu, les chouffettes. On n'est pas des martiennes, il faut le dire. Eh bien, aujourd'hui, la culotte menstruelle, toutes les grandes marques de lingerie s'y mettent, hein, pour n'en citer que quelques-unes, Etam, Dim, Undies, en partenariat avec la marque très engagée et spécialiste Sisters République. Et on a même aujourd'hui des messages, donc on s'amuse avec ces fameuses petites culottes. Donc notamment chez Sisters République, on a des culottes avec écrit dessus « Do not enter hein, »,« Ne rentre pas » ou « Tonight is not the night », je crois que c'est assez explicite.
Cette nuit, c'est pas cette nuit, voilà, quoi, c'est pas ce soir.
C'est pas la bonne nuit. Ou la marque Moods, qui là aussi s'affiche avec des femmes au physique varié et non normé, sous un petit logo « T'es bonne, bébé ». Donc je trouve que voilà, il faut dire que c'est un marché qui est quand même en plein essor. Il va afficher une croissance de 16% d'ici à 2030. Donc si les grands acteurs de la lingerie s'y mettent, c'est pas juste pour des convictions idéologiques, c'est aussi pour des raisons économiques.
Et alors pourquoi d'un seul coup, tout le monde se met aux culottes menstruelles?
Alors Julia, il y a l'aspect écologique, bien sûr, qui arrive en premier lieu. Hein, la peur de la part de nombreuses femmes du fameux syndrome toxique, on en parle déjà depuis quelques années, qui était lié à l'utilisation prolongée du tampon. La culotte est donc clairement meilleure pour la santé, mais la question se pose pour nous les femmes, est-elle aussi efficace? Alors une question importante qui nous intéresse en tant que consommatrice. Alors bien sûr, il faut savoir que quand vous les achetez, vous avez des précisions sur l'emballage où on décrypte, on vous dit en fonction des flux quelle culotte il faut porter. Il faut savoir que c'est un produit extrêmement technique. J'ai demandé à Claire Soucault, fondatrice de la marque Meuf, en quoi étaient fabriquées les culottes menstruelles.
Tu as une première couche qui est en bambou classique. Ensuite, tu as une deuxième couche qui est en bouclette de bambou, donc beaucoup plus épais. Et une troisième couche qui est en PUL. La première couche, elle absorbe très vite le sang. La deuxième couche, elle le garde. Et la troisième couche, elle l'empêche qu'il passe au travers de la culotte.
D'accord, alors c'est très technique hein, oui. Ça, tout ça, et le pull c'est quoi ?
Alors le PUL, c'est donc PUL. Un tissu extrêmement technique, imperméable, doux et résistant. On considère que ces culottes en moyenne sont efficaces pour une durée de 8 heures. Alors 60 millions de consommateurs précisent hein, que ça ne fonctionne pas au-delà des 12 heures. Bah, j'ai envie de dire comme une culotte normale, c'est bien d'en changer aussi hein, régulièrement, de ne pas dormir avec la même, soyons un peu propres. Alors toutes bien sûr n'ont pas la même capacité d'absorption, ça c'est très clair, et certaines déplorent le prix aussi relativement élevé parfois de ces culottes qui peuvent atteindre jusqu'aux 30 euros. Alors j'ai demandé à Caroline, une fervente utilisatrice, pourquoi elle y trouve son compte et notamment, surprise, eh bien, l'aspect financier à prendre en compte.
Je trouve que c'est un produit écologique, qui est efficace, confortable et vraiment super pratique. Il y a une notion de prix aussi qui me plaît. Je garde ma culotte des années, donc c'est des économies considérables. Et puis pour terminer, je les trouve jolies, sexy, confortables. Vraiment, c'est un super produit.
Des années, mais en la lavant régulièrement.
Exactement, en la lavant, en faisant attention au programme employé. Alors justement, ce qui est intéressant et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a ce côté sexy. Parce que longtemps, on lui a reproché de ne pas l'être, avec notamment ce côté un peu double fesse. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, parce que la culotte est assez épaisse. Beaucoup de travail a été fait en recherche depuis. On trouve des dentelles plates chez Etam. Une culotte sans démarcation, même chez Uniqlo, donc très belle à porter sous un vêtement. Et chez Sisters Republic, des boxeurs qui sont extrêmement mignons et intéressants dans cette tendance de l'unisex. Alors Stéphanie Léon a fondé cette marque et elle m'a raconté pourquoi elle s'était lancée dans la création des culottes menstruelles.
Quand j'ai dû choisir des protections périodiques pour ma fille, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que je pouvais pas lui demander de choisir entre la peste et le choléra. C'était à l'époque du scandale de la composition des tampons et des serviettes. Du coup, je me suis orientée vers le lavable. J'ai repensé à la culotte postpartum que j'avais eu, qui était très pratique à enfiler, et je me suis dit, mais bingo, c'est ce qu'il faut. Il faut une culotte, mais jolie, efficace, avec de la dentelle, du plumeti, qui soit agréable à porter, mais aussi efficace que trois tampons.
Donc oui, à la culotte menstruelle, on voit bien qu'elle peut être sexy et l'argument du prix parfois élevé peut s'expliquer par une fabrication entièrement française. Rien à voir avec cet esprit patriotique, hein, mais c'est juste que c'est intéressant, notamment pour ce type de produit de fabriquer en France. Et on écoute à nouveau Claire Soucault, fondatrice de Meuf.
Je fabrique les culottes menstruelles en France parce que j'avais envie et besoin de proximité et de pouvoir aller à l'atelier à tout moment. Et voilà, donc j'ai monté mon propre atelier. Et là, aujourd'hui, en 20 minutes, je peux aller voir les gens avec qui je travaille. Et pour moi, c'est un métier qui est très humain. Donc c'était super important de pouvoir avoir ce contact-là le plus souvent possible.
Un produit intime, fabriqué au plus près de chez soi, ça vaut peut-être un prix un peu plus élevé parfois. J'espère vous avoir convaincu avec ces culottes menstruelles qui sont maintenant sexy finalement. Donc
moi je valide complètement ces arguments.
Moi j'hésitais, voilà.
Et ben moi aussi.
Oui. Benjamin.
J'ai longuement hésité.
Il y a que Benjamin qui est encore sur ses serres.